Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1975, Roger Vrigny proposait aux auditeurs des samedis de France Culture de passer 2 heures en compagnie d'Antonin Artaud. Artaud, mort depuis 1948, mais bien vivant par sa voix dans cette émission et par les souvenirs de ceux qui l'avaient connu, qui en avaient été proches, comme Marthe Robert, l'ami d'Artaud dans le Montparnasse de l'entre-deux-guerres, et Paul Thévenin. Paul Thévenin a voué sa vie à l'œuvre d'Antonin Artaud, qu'elle aura su préserver de la dispersion et de la spéculation. Interne en psychiatrie, elle avait 23 ans quand elle rencontra Antonin Artaud. Il fit d'elle une sorte d'héritière morale, ce qui conduira Gallimard à lui confier l'édition des œuvres complètes de l'auteur de Van Gogh, le suicidé de la société. Un rôle que lui contestèrent toujours, on le sait, les héritiers légaux d'Artaud. Mais après tout, qui d'autre que leurs lecteurs sont les seuls véritables légataires des auteurs ? Que nous puissions l'être aujourd'hui de l'œuvre d'Artaud, c'est quand même bien à Paul Thévenin que nous le devons tous. On la retrouve ici avec Jacques Brenner, Hubert Juin, Henri Thomas et Bernard Noël. En compagnie d'Antonin Artaud, un samedi de France Culture proposé par Roger Vrigny en 1975.
En compagnie d'Antonin Artaud.
Aliénation et magie noire. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. Et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'État appelé Bardo.
Cette voix extraordinaire que nous venons d'entendre est celle d'Antonin Artaud, que les archives des services phonographiques de Radio France nous ont conservées. Archives précieuses, inestimables, sur la teneur desquelles nous aurons à revenir du reste au cours de cette émission, et dont nous avons extrait cette page d'Aliénation et magie noire, interprétée par Antonin Artaud lui-même quelques mois avant sa mort. C'est donc avec lui d'abord que nous allons être pendant ces 2 heures. Mais comment et pourquoi ? Je crois qu'il est indispensable de bien préciser notre propos d'aujourd'hui afin de dissiper les malentendus et de prévenir les contresens éventuels. « Moi, poète, disait Artaud, J'entends des voix qui ne sont plus du monde des idées, car là où je suis, il n'y a plus à penser. Il ne s'agira donc pas pour nous d'ajouter d'autres voix, de proposer d'autres pensées, de tenter je ne sais quelle exégèse prétentieuse ou bavarde d'une œuvre qui secrète elle-même sa propre analyse, qui ne procède pas de son créateur comme n'importe quelle œuvre littéraire procède d'un poète ou d'un dramaturge, mais qui serait plutôt comme la formulation de sa présence au monde, l'expression d'une déchirure fondamentale de l'être, l'acte d'accusation perpétuelle et renouvelée portée contre l'homme, ce qu'il est devenu, et contre la création, ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Donc aujourd'hui, nous voudrions simplement et modestement approcher Antonin Artaud, essayer d'immobiliser quelques instants sa silhouette, son visage, tenter de le faire revivre, agir, parler, comme l'ont vu, entendu, aimé tous ceux qui ont vécu près de lui, autour de lui, dans les derniers mois de sa vie, et qui sont les derniers témoins irrécusables, irremplaçables, d'une destinée fulgurante et hors du commun. Pourquoi le faire ? Christian Giudicelli, il y a d'abord une raison d'actualité dans l'édition.
En effet, il y a une actualité d'Antonin Artaud dans l'édition. 4 volumes se sont ajoutés récemment aux œuvres complètes publiées chez Gallimard. Le tome 10 et le tome 11 groupent l'essentiel des lettres de Rodez. Dans le tome 12, on trouve Artaud le Momo et Sigy. Dans le tome 13, Van Gogh le suicidé de la société et pour en finir avec le jugement de Dieu. On attend pour bientôt, on l'espère, la publication du tome 14 avec Suppôt et Suppliciation.
Une autre publication également, les œuvres du poète Jacques Prevel. Du reste, le titre de notre émission, nous l'avons emprunté au journal de Jacques Prevel qui vient de paraître chez Flammarion, sous le titre « En compagnie d'Antonin Artaud », texte recueilli et présenté par Bernard Noël. Alors maintenant, comment nous y prendre ? Eh bien, je crois qu'avant de donner la parole à nos invités, il est indispensable pour nous, et pour nos auditeurs, de fixer quelques points de repère pour expliquer telle ou telle allusion à venir à la vie ou aux œuvres d'Antonin Artaud. Donc, tout d'abord, l'essentiel de sa biographie.
Antonin Artaud est né à Marseille en 1896. À 17 ans, sa santé a commencé à s'altérer, et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est plaint de violents maux de tête. Il arrive à Paris en 1920, où il est soigné par le docteur Toulouse. Il fait, un an après, la connaissance de Charles Dullin, qu'il engage au théâtre de l'Atelier, où il jouera notamment « La vie est un songe » de Calderon. En 1923, publication de ses premiers poèmes, « Trictrac du ciel ». En 1924, c'est la correspondance avec Jacques Rivière qui paraît. Et on peut dire que c'est la première œuvre importante d'Antonin Artaud. La première, en tout cas, où il tente avec une rare lucidité de définir ce qu'il a appelé l'effroyable maladie de son esprit. En 1925, deux textes majeurs aussi à la NRF, L'ombilique des limbes et Le pèse-nerf. En 1927, il fonde avec Roger Vitrac et Max Robur étant le pseudonyme de l'historien Robert Aron qui vient de disparaître, il fonde le théâtre Alfred Jarry. Et signalons qu'il y aura lors d'une représentation du Songe de Strindberg une bagarre avec les surréalistes. Notons aussi qu'il interprète plusieurs rôles au cinéma, surtout évidemment dans le Napoléon d'Abel Gance et dans la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. En 1929, il publie L'art et la mort. En 1931, son adaptation du Moine de Lewis. En 1932, le premier texte du Théâtre de la cruauté. En 1934, Héliogabal ou l'anarchiste couronné. Et en 1935, il monte sa pièce, Les Cenci, dont l'échec public le touche profondément. Au début de 1936, c'est le départ pour le Mexique, d'où il ramènera les extraordinaires textes sur les Indiens Tarahumara. Revenu en France, il veut aller en Irlande, muni d'une canne, la fameuse canne de Saint-Patrick dont il sera certainement question dans cette émission. De ce séjour en Irlande, il faut bien dire qu'on ne sait à peu près rien. On retrouve Antonin Artaud à l'hôpital de Sotteville-lès-Rouen, puis il passe de l'asile de Sainte-Anne à celui de Ville-Évrard, où il reste, on peut le dire, emprisonné jusqu'en 1943. Entre-temps, apparu chez Gallimard, Le théâtre et son double. Sur l'intervention de Robert Desnos, il est remis entre les mains d'un docteur épris de littérature, le docteur Ferdière, qui le soignera de 1943 à 1946, dans sa maison de santé de Rodez. On a beaucoup épilogué sur le rôle du docteur Ferdière, excellent pour les uns, néfaste pour les autres. Les lettres d'Antonin Artaud, récemment publiées, montrent le poète d'abord confiant en son médecin, puis très violent contre lui. En 1946, il obtient, grâce à ses amis parisiens, sa liberté. Et il vivra ses derniers 18 mois dans la capitale, lui-même ayant une chambre à l'asile d'Ivry. C'est surtout à cette période très féconde que nous nous intéresserons, puisque les derniers volumes qui viennent de paraître chez Gallimard, nous venons de le voir, groupent, outre les lettres, les textes qu'il écrivit alors, et notamment Artaud le Momo, Van Gogh le suicidé de la société, Sigy.
Et pour en finir avec le jugement de Dieu, car n'oublions pas de signaler que c'est en novembre 1947, à l'instigation de Fernand Pouet, qu'Antonin Artaud réalisa une émission pour la radio française de l'époque, pour en finir avec le jugement de Dieu, texte conservé dans les archives des services phonographiques de Radio France et dont la diffusion ne peut être autorisée qu'en son intégralité selon un accord passé avec les héritiers du poète. C'est à cela que nous faisions allusion il y a un instant dans notre présentation. Et maintenant, place à nos invités, Marthe Robert, Paul Thévenin, Evelyne Schlumberger, Jacques Brenner, Hubert Juin, Bernard Noël, Pierre Oster et Henri Thomas pour rester en leur compagnie, en compagnie d'Antonin Artaud. Je me demande s'il ne conviendrait pas tout d'abord de planter le décor de notre discussion. Nous avons parlé à l'instant d'une actualité d'Antonin Artaud dans l'ordre de l'édition. Notamment, la publication des derniers tomes, 12 et 13, nous replonge dans une certaine époque, à un certain moment de la vie artistique et littéraire de la France et de Paris. Il y a là, au fond, tout un climat à évoquer, que nous avons oublié, mais un climat que vous, vous avez tous connu, Marthe Robert, Jacques Brenner, Hubert Juin, Henri Thomas. Et je crois qu'il faudrait justement tenter de le ressusciter. Ce n'est pas votre avis, Marthe Robert ?
Oui, j'y ai souvent pensé ces derniers temps à cause justement de l'actualité de toutes ces publications qui font revivre une période déjà assez ancienne et qui, au fond, sombrait un peu dans l'oubli entre-temps. Justement, vous avez signalé l'ouvrage de Prevel sur Antonin Artaud, mais on publie aussi en même temps les œuvres complètes de Roger Gilbert Lecomte, qui est mort quelques années avant, en 1943, pendant la guerre. Les œuvres de Daumale aussi, on reparle beaucoup du grand jeu. Il y a un regain d'intérêt pour ces mouvements qui, à vrai dire, ne constituaient pas des mouvements, mais qui sont nés dans un certain milieu. Et il y a là, évidemment, quelque chose d'à la fois réconfortant, puisqu'il semble que même les choses les plus restreintes à un milieu étroit qui n'avait pas de place dans la littérature de l'époque ou très peu, qu'elles aient maintenant tout de même une postérité. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez attristant parce que la manière dont on reçoit cette poésie, cette littérature de l'époque n'est pas tout à fait celle qu'au fond elle aurait méritée. Je m'explique. En apparence, il y a beaucoup de points de commun entre la génération des jeunes gens, car ils étaient jeunes à l'époque où ils ont créé leurs ouvrages les plus importants, sauf Antonin Artaud qui a créé une très importante partie de son œuvre après son retour de Rodez, c'est-à-dire dans son âge mûr. Autrement, ces gens sont morts jeunes. Prevel est mort jeune, Roger Gilbert Lecomte est mort à 36 ans, Daumale également. C'est vraiment donc une certaine jeunesse qui a créé les œuvres en question. Et justement, il semble que aujourd'hui on les reçoive comme s'ils avaient été, au fond, les pionniers de mouvements qui nous sont familiers aujourd'hui, et qui sont assimilés en gros et grossièrement à l'avant-garde intellectuelle et littéraire. Et il semble qu'en effet, on puisse placer certaines tendances actuelles sous le patronage de Roger Gilbert Lecomte, Antonin Artaud ou de Daumale. Surréalisme, ça on l'a fait bien sûr jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a en effet des points communs. Les points communs sautent aux yeux, il y a une révolte exprimée par toute cette poésie, par toute cette littérature, une révolte violente, très violente même, et qui ne s'arrête au fond devant rien, j'entends au moins en parole. Et il y a aussi une manière de vivre, un choix dans la vie, qui caractérise en gros par une espèce d'évasion par la drogue, qui paraît évidemment aujourd'hui conforme à un certain idéal de refus. Refus de la société, refus de ce qui est,
refus de la réalité.
Refus de la réalité, pas exactement. Je disais qu'il y avait là quelque chose d'attristant et même qui me cause un certain malaise. C'est qu'en réalité, toutes ces ressemblances qui existent, la révolte d'Antonin Artaud est si totale que même aujourd'hui on peut difficilement aller au-delà, car elle s'adresse vraiment non seulement à tout, à toutes les formes de pensée, à la pensée elle-même, mais aussi au corps, à la manière tout simplement dont l'homme est constitué. Antonin Artaud ne peut pas accepter ce qui est, mais ce qui est, non pas seulement socialement, ce qui est, enfin ce qui fait la chair, les nerfs et le corps de l'être humain. Vraiment, sa révolte va, je crois, à l'extrême limite du possible. Cependant, malgré encore une fois les ressemblances, je vois une différence fondamentale, c'est que tout ça se passait dans un autre monde. Et dans un monde qui, malgré tout, était encore entièrement dominé par une certaine idée de la littérature. Je dirais presque une certaine mythologie de la littérature. Et c'est très important, je crois, dans la mesure où tout ce qu'il y a d'excessif dans ce mouvement qui ne porte pas de nom, tout ce qu'il y a donc de totalitaire dans le refus de la réalité, se coule malgré tout dans une forme. C'est vrai pour Antonin Artaud, vous savez combien ce problème, on le voit dans la correspondance d'Antonin Artaud avec Jacques Rivière, c'est là le problème fondamental pour Antonin Artaud, qui se sent ravagé par une souffrance de tout instant, qui souffre mentalement, physiquement, psychiquement, mais qui veut essayer, qui veut malgré tout justement couler cette souffrance dans une forme qui, à cette époque-là, est quand même encore une forme assez classique.
Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, forme de phrase, direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même. Je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci qui est très mal dit risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes, et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bienheureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui ressortit à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens, les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet.
Antonin Artaud avait des modèles. Et c'est à ces modèles qu'il se conformait ou qu'il croyait se conformer profondément quand il écrivait la première partie de son œuvre, en tout cas. Pour la deuxième, c'est tout différent, c'est vrai. De même, Prevel. Eh bien, Prevel, le cas de Jacques Prevel, qui est en lui-même quelque chose d'assez extraordinaire et quelque chose d'assez rare aussi. Justement, le cas d'un homme qui a été positivement saisi dans sa vie par une image de la poésie qui l'a détruit, tout simplement, à laquelle il a cru d'une manière si absolue qu'elle l'a poussé à la destruction de lui-même, à la destruction de sa propre vie, inconsciemment, en partie, en partie aussi volontairement. C'est donc un donquichottisme de l'avant-garde qui mérite d'être considéré, parce qu'il est rare tout de même, je sais bien qu'il y avait d'autres forces en jeu dans le cas de Prevel certainement, mais nous l'avons vu, nous l'avons vécu, vraiment, le mythe du poète, tel que Prevel le concevait, était un mythe absolu qu'il a cru pouvoir voir, littéralement incarné, dans la personne d'Antonin Artaud. Et cette existence, disons, de modèle, auquel, justement, on avait envie de ressembler d'une part, et en qui on avait foi, c'était, si vous voulez, à cette époque, tout ce qui restait, au fond, de la foi. On avait foi dans les maîtres qui vous avaient précédé. Roger Gilbert Lecomte faisait de Rimbaud son dieu. Antonin Artaud a passé une grande partie de ses nuits, du moins après son retour de Rodez, mais même avant, à réciter des poèmes de Gérard de Nerval. Et cette récitation de poèmes n'était pas du tout simplement un exercice de diction ou une simple manière.
Non, c'était un rite.
C'était un rite par oui. quoi il faisait revivre oui. cet homme qui pour lui était un frère en esprit. De même que quand il écrivait sur Van Gogh, si vous voulez, c'était vraiment une manière d'invocation, mais d'invocation réelle, matérielle. Et c'est là, si vous voulez, que je vois la différence
profonde, oui.
entre cette époque qui était encore très imprégnée d'une espèce de confusion, je dirais presque, entre littérature et religion. Vous savez, Nietzsche disait que tant qu'on croyait à la grammaire, on n'était pas réellement athée. Je dirais que dans ce milieu, on croyait encore à la littérature. Mais à la littérature d'auteur, à la littérature signée et datée. Et cela, c'était, si vous voulez, le lien qui rattachait, d'ailleurs qui créait aussi dans les mouvements des querelles et des conflits absolument sanglants, parce que l'un tenait pour l'autre Hamon, l'autre tenait pour Rimbaud, et c'était absolument irréconciliable. On se battait à mort pour cela, ce qui prouve bien à quel point les maîtres étaient décisifs.
Hubert Juin.
Ce que dit Marthe Robert à propos du rapport entre les auteurs comme Prevel, comme Artaud, bien sûr, comme Gilbert Lecomte, vis-à-vis des maîtres, c'est passé un peu d'une autre façon pour les gens de ma génération. Je suis arrivé à Paris plus jeune qu'eux. Je suis arrivé à 20 ans, juste après la Libération. Les maîtres étaient évidemment Rimbaud d'Autriamont, puisque nous épousions les querelles. Mais il y a eu une sorte d'itinéraire obligé pour quelqu'un qui montait vers Paris, qui venait de province. Moi, je venais de la province Belgique. Donc, il y avait une sorte d'itinéraire qui menait chez Adamoff. Il fallait voir Artaud, enfin on l'a attendu quand on a su qu'il venait de Rodez. Bon, je voyais beaucoup Prevel. Alors immédiatement, je n'ai pas eu, si vous voulez, à faire le mouvement romantique de Prevel qui un jour décide de refuser toute situation mondaine, parce qu'il avait quand même été employé de mairie, n'est-ce pas ? Nous sommes venus, nous, à Paris comme ça, le problème ne se posait pas, il n'était même pas question une seconde de faire autre chose, effectivement, que de la littérature. Ce qui fait que Adamoff, Artaud, puisque Gilbert Lecomte était mort, devenaient, pour nous, plus jeunes, les maîtres qui nous transmettaient les autres maîtres. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une lecture des maîtres à travers leurs nouvelles, par exemple.
Quand Adamoff a décidé de créer cette revue qui n'a eu que deux numéros, naturellement, on l'a placée sous l'invocation de Rimbaud, cela va sans dire, leur nouvelle est au moins très sévère. Et à partir de là, on concevait cette forme de journalisme pour laquelle nous n'avions bien entendu pas la moindre expérience, comme chaque fois la preuve, justement, qu'on peut ne dire, même dans une revue, que l'essentiel. Roger Gilbert Lecomte avait coutume de dire, et je crois là vraiment que tous les gens dont nous parlons ici auraient pu reprendre ce mot à leur compte, il avait coutume de dire « Je tiens pour un porc quiconque écrit pour ne pas dire l'essentiel ». Alors, on se moquait complètement, par exemple, que les textes soient édités déjà, qu'ils soient déjà connus ou qu'ils soient inédits. On n'attachait aucune importance à l'inédit. On voulait l'essentiel. On publie aussi bien des textes tibétains que les choses les plus récentes. Un poème de René Char, même un poème de Prevert. Mais justement, c'est très intéressant. Pourquoi cette heure nouvelle n'a-t-elle eu que deux numéros ? Eh bien, pour deux raisons. L'une qui va de soi, par manque d'argent, bien entendu, parce qu'on n'avait rien du tout. Une très maigre subvention d'une dame très gentille qui s'était intéressée à l'affaire. Mais en plus de ça, on avait eu des idées de grandeur. C'était fait chez l'imprimeur le plus cher de Paris, très joliment d'ailleurs. Un travail typographique extraordinaire, une très jolie couverture qui avait été dessinée par le peintre Jacques Germain. C'est très très beau, vraiment remarquable. Enfin, ce n'était pas possible, comme on n'y connaissait absolument rien, on ne tenait pas de compte, enfin bon, ça devait péricliter déjà à cause de ça. Mais il y avait une autre raison, et qui au fond a été la raison décisive. C'est qu'on voulait continuer à ne dire que l'essentiel, ou ce qui paraissait l'essentiel à nos yeux. Si bien qu'au bout de quelques temps, comme il y avait autour de cette revue et autour d'Adamov, qui connaissait beaucoup de monde, qui avait beaucoup d'amis, qui était comme ça assez populaire, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, des gens très gentils, qui nous aidaient à porter les exemplaires, parce que ce n'était pas du tout distribué, n'est-ce pas ? C'était nous qui faisions les paquets, les enveloppes, très mal, tout ça. Et il y avait donc beaucoup de gens qui nous donnaient leur aide, leur conseil, parfois même un petit peu d'argent, mais qui tous écrivaient quelque chose.
C'était des porcs.
Et oui, c'était du poète, c'était n'importe quoi. Bref, on s'est trouvé à un moment donné devant ce cas de conscience absolument insoluble, ou bien faire plaisir à tous ces gens qui le méritaient, qui étaient très gentils, mais qui n'écrivaient pas l'essentiel, ou bien maintenir notre principe, quitte à disparaître.
Et c'est
évidemment la deuxième solution.
Mais il y a une chose quand même que je voudrais rajouter, pour confirmer ce que dit Marthe Robert, mais toujours à mon point de vue, enfin, de ces gens qui montaient à Paris, et qui faisaient d'ailleurs que ce n'était pas des Rastignac, parce que cette idée d'essentiel les touchait, mais il y avait quand même là un phénomène très curieux, qui est le Saint-Germain-des-Prés de cette époque, et on ne vivait pas à Saint-Germain-des-Prés, on vivait en littérature.
Oui.
D'ailleurs, si vous lisez le journal de Prévert, si nous avions tenu un journal aussi, vous remarqueriez que nous ne rencontrions que des gens qui écrivaient, ou au moins chez qui un projet de littérature existait. C'est quand même assez fascinant. Ce quartier, on le voit d'ailleurs en lisant Prévert, puisqu'il a disparu entièrement, on ne peut plus avoir la moindre idée
de ce
qu'aucun rapport. Quand vous voyez Prével avec son double ménage, enfin, rue des Beaux-Arts l'un, rue du Dragon l'autre, c'est-à-dire à 500 mètres en vol d'oiseau. Et effectivement, il y a quatre rues qui n'ont pas leur place dans une géographie physique de Paris, mais qui doivent se projeter dans une géographie de la littérature. On le voyait au café. On allait dans tel café parce qu'on savait qui on rencontrait dans tel café. Mais si on allait dans tel autre café, c'était une bande différente, comme on pouvait dire. Mais on ne vivait que de littérature. On ne parlait que de littérature. À tel point que je ne me souviens même plus comment matériellement on vivait.
Ah ben moi, je veux vous dire, enfin, moi je sais très très bien parce que je faisais la cuisine, pour parfois pas mal de monde, dans une petite chambre d'hôtel, très jolie d'ailleurs, mais très très étroite, où il y avait bien souvent Antonin Artaud qui venait à n'importe quel moment dans la journée et qui s'annonçait un grand coup de tisonnier. Il avait un tisonnier, toujours dans son gilet, et il montait les quatre étages de cet hôtel du 18e siècle. Il y avait un très joli escalier, c'était une très belle maison complètement dégradée, mais très belle. Il montait les quatre étages en tapant à force de bras sur la rampe de cet escalier. Alors je l'entendais d'en bas, le patron de l'hôtel aussi, naturellement. Il arrivait et il s'allongeait sur le lit. Il semblait dormir, à ceci près qu'il avait toujours un cahier quadrillé, ces extraordinaires cahiers qu'il faut maintenant déchiffrer, et un crayon qui était taillé ou pas taillé, ou parfois il se servait d'ailleurs par l'autre bout. Et il écrivait, les yeux fermés, ouverts. Il était là. Bon. Ensuite, arrivé Adamov, qui venait juste de lire quelque chose quelque part, qui avait découvert, ça Jacques Brenner le confirmera certainement, il avait découvert un auteur de théâtre, puisqu'à ce moment-là, il était passionné de théâtre. C'était Kleist, ou c'était Büchner, ou c'était Hölderlin. Il arrivait, et toute affaire cessante, il fallait, tout en faisant la cuisine, que j'écoute les citations qu'Adamov faisait toujours de travers, d'ailleurs, du poète ou de l'auteur dramatique qu'il venait de découvrir juste à ce moment, et toute affaire cessante, il fallait en parler, il fallait l'écouter, et la question ne se posait pas
nourrir.
Il n'était pas question, la littérature primait tout. Et quelle littérature ? C'est cela que j'aimerais bien maintenant pouvoir définir. La poésie joue un grand rôle à ce moment-là. Si je me souviens bien, moi, je lisais des romans Et puis, je commençais à m'occuper de Kafka. Mais en général, on ne lisait pas de romans. La littérature, c'était la poésie et c'était tout. Je ne me souviens pas que Roger Gilbert Lecomte, par exemple, n'ait jamais parlé d'un romancier, ni qu'il ait jamais écrit au sujet de quelque chose qu'il avait frappé dans un grand romancier de la littérature mondiale. Antonin Artaud n'a jamais, probablement jamais, évoqué un roman devant moi.
Jacques Brunner.
Enfin, il en avait lu, puisqu'il a fait, par exemple, Le Moine. Oui.
Sûrement, il en avait lu. Mais je veux dire que ça n'entrait pas dans ce monde de désir, de nostalgie, de rêve que représentait la poésie. C'était toujours un petit peu trivial. Et les gens qui écrivaient des romans, comme Roger Vaillant, par exemple, c'est un des gros griefs que les gens du Grand Jeu ont eu après contre lui. Il écrivait des romans.
Jacques Brunner.
Oui, pour ma part, j'avais été introduit dans ce milieu par Henri Thomas. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui admirait, par exemple, beaucoup André Gide. Mais quand j'ai vu ce groupe de près, enfin, Artaud, Adamoff, vous-même, j'étais, je dois dire, intimidé. Car je me disais, en effet, la littérature, est-ce que ce n'est pas ça qui est tout à fait en marge des choses dont on parle ? Et n'est-ce pas l'essentiel, comme vous disiez ? Je dois dire, d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Artaud, pour moi, je me suis trouvé devant un monstre sacré, quelque chose qui n'était pas d'ailleurs un littérateur. Là, c'était effectivement le grand poète. Mais d'un autre côté, enfin, j'admirais Gide, mais par exemple, mon grand homme était Lautréamont. Et parlant de Lautréamont à Colette Thomas, Colette Thomas m'a dit, mais nous l'avons, Lautréamont. Lautréamont, c'est Artaud. Je crois en Artaud. Et elle m'a dit, je crois en Artaud. Comme elle m'aurait dit, je crois en Dieu.
Exactement, Jacques Brunner. Mais alors, comment parler d'un Dieu ? Quand on veut évoquer le personnage d'Antonin Artaud, on se heurte toujours à cette fascination qu'il exerçait. D'où la difficulté que nous éprouvons, nous, maintenant, à parler de lui. C'est votre sentiment, Henri Thomas.
C'est difficile de parler de n'importe qui, mais c'est peut-être plus difficile de parler d'Artaud. On croit l'avoir connu, mais qui a-t-on connu ? Artaud, je ne lui enlève rien en disant ça, était un prodigieux comédien dans la vie. Et, chose étrange, il ne s'en cachait pas. Quand il vous disait « je ressemble à Victorien Sardou », que fallait-il penser ? Parce qu'il avait un béret, il se regardait dans une glace. Mais ce comédien disait quelque chose qui vous introduisait dans un monde inconnu, un monde incontestable, où les mythes construit par Artaud dans la conversation, prenait une réalité, on ne pouvait que les admettre. Lorsqu'il me disait « Henri Thomas, je vous ai envoyé de Rodez une petite potence à laquelle étaient suspendues trois roses. L'avez-vous reçue ?» J'étais obligé de lui dire « Les choses se perdent si facilement dans la poste. » Je suppose que c'était d'ailleurs un dessin. Il est possible qu'il m'ait envoyé. Et ça avait une signification et une portée, disons, métaphysique, amicale aussi. C'est très important, c'est le sens de l'amitié d'Artaud. Il ne se trompait jamais. Il savait les gens qu'il aimait et il les reconnaissait. Il reconnaissait aussi ceux qui le haïssaient, il y en avait. Enfin, le lien affectif n'était pas rompu entre Artaud et ses semblables, si on peut parler de semblables d'Artaud.